Vous êtes sur RTL.
Ce qui est dit hier, pour l'instant, on n'a pas la possibilité de le vérifier, sauf que ce qui a été dit avant-hier et il y a 8 jours, et même il y a 15 jours ou il y a 1 an, on a pu vérifier que ça ne change pas.
Par exemple, qu'est-ce qui n'a pas, selon vous, été appliqué depuis tant d'années ?
La fermeté de l'État face à des certains vont comment ils les ont appelés des sauvageons, des trublions, des machins, bon, tout un tas de petits noms gentils qu'on donnerait peut-être parfois à son petit-fils, petit garnement, petit chenapan. Non, quand on tire en mortier sur des policiers, je suis désolé, on a affaire à des personnes qui veulent attenter à la vie des policiers, des gendarmes, des pompiers. Alors là, franchement, il faut être complètement idiot à un point incommensurable pour s'attaquer à des pompiers qui sont là pour sauver des gens, quoi. Donc, ça continue et ça perdure. Et puis, après, on a des gens qui arrivent à trouver des excuses à ces gens-là, quoi. Maintenant, ils n'ont plus la console de jeu. Ils le vivent dehors. C'est l'amusement national. On peut faire en toute impunité parce que derrière, il n'y a pas de réponse. On a du mal à identifier les auteurs parce qu'ils sont bien sûr cagoulés. Ils sont difficilement identifiables et puis ils étaient là mais c'était pas eux, voilà quoi.
Bon, vous êtes gendarme à la retraite, vous avez 59 ans, vous avez été combien de temps dans la gendarmerie ?
J'ai fait 30 ans en gendarmerie, je suis parti à 50 ans.
Et aujourd'hui ?
J'ai fait une reconversion et je fais du guidage de convoi exceptionnel et de l'accompagnement de convoi exceptionnel en voiture pilote.
Donc vous n'êtes plus dans la gendarmerie depuis 10 ans ? Et quand vous avez quitté la gendarmerie, déjà vous... Vous pouviez remarquer une sorte de dérive qui existait.
Bon, on a toujours connu plus ou moins, je veux dire, plus ou moins de violence, mais il y a des gens que l'on arrivait à avoir. Tiens, j'ai un écho qui me revient là, je ne sais pas si ça vient de chez vous. On avait des comportements un petit peu déviants, mais on arrivait plus ou moins à calmer et à convaincre les gens de changer d'attitude, etc. Bon, là maintenant, je rencontre. Assez souvent des anciens policiers et gendarmes. Bon, ils doivent lire et voir sur ma tête que je suis ancien gendarme. On discute et puis quand ils me demandent depuis combien de temps je suis à la retraite, je leur dis. Et puis ils me disent t'es parti au bon moment, quoi. C'était déjà un sacerdoce de rentrer en police ou gendarmerie.
C'est vrai dans toutes maintenant... les entre. Je vais vous dire, c'est drôle ce que vous dites parce que c'est vrai dans toutes les entreprises. Quand quelqu'un est à la retraite et qu'il croise quelqu'un qui est toujours dans l'entreprise, il lui dit quoi qu'il arrive. T'es parti au bon moment. J'ai toujours entendu ça.
Ouais, mais quand on voit ce qui se passe, moi j'ai pas vécu ça. Bon, j'ai vécu des omissions volontaires de s'arrêter, il y en avait déjà. J'ai été percuté par un cyclomotoriste bourré sur un cyclo quitté non assuré, percuté par un motard qui était sans permis, donc on peut dire que c'était pas un motard puisqu'il avait pas le permis. Sur une moto d'emprunt il était bourré aussi. Bon, ça, des omissions volontaires de s'arrêter, j'en ai connu. Mais maintenant, c'est le policier ou le gendarme qui est face à un véhicule. J'étais déjà une quille puisque j'étais percuté 2 fois. Ceci étant, c'est tous les jours. Et c'est infernal, quoi. Et puis, il n'y a pas de réponse derrière. On arrive toujours à trouver des excuses.
Écoutez, en tout cas, c'est un débat qui devient régulier depuis quelques jours sur cette antenne. Gérald Darmanin était là ce matin. Il y a peut-être une prise de conscience. Il y a également le président de la République qui a donné son avis. Il a dit « la violence enfle ». Ces dernières heures, c'est une réalité de dire qu'il y a de la violence dans notre société, qu'elle enfle et que le rôle chaque jour de nos policiers est rendu plus difficile par cette violence. C'est vrai que c'est difficile de dire le contraire en même temps puisqu'elle nous saute aux yeux. Donc on va pouvoir discuter ensemble et peut-être imaginer des solutions parce que c'est ça qui est très compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vous pose la question, hein, tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Nous sommes avec Christopher, toujours sur ce sujet des violences et de ce que nous imaginons comme solution. Mais Laurent Tessier est là pour nous donner peut-être des informations et bonjour, une première tendance au téléphone.
Bonjour à tous, c'est le sujet, vous l'avez dit, qui vous fait réagir au 32-10. Des mesures de durcissement de peine contre les agresseurs des forces de l'ordre ont été annoncées, notamment la suppression du rappel à la loi. Va-t-elle dans le bon sens? Oui, pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, invité d'Alba Ventura ce matin sur RTL.
Sur 800 000 décisions de justice par an, 800 000 décisions de justice, il y en a à peu près 300 000, un petit peu moins, qui sont des rappels à la loi. On supprime ces 300 000 rappels à la loi qui ne servent en effet à rien chaque année.
Et on en fait quoi à la place?
Il y aura de vraies infractions qui seront vraiment condamnées, si j'ose dire, par les procureurs de la République et par les juges.
Par quelle mesure faut-il alors remplacer ce rappel à la loi? Le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, était l'invité de RTL Midi.
L'amende forfaitaire délictuelle, on est en train de la développer en matière d'usage de stup. C'est une bonne réponse pour des délits simples, pour éviter d'encombrer l'appareil judiciaire. Mais ce n'est pas la réponse à tout non plus.
Ces annonces vont-elles dans le bon sens? Est-ce suffisant? Eh bien, pour Damien, sur la page Facebook RTL, les auditeurs à la parole, il faut une vraie réclusion criminelle à perpétuité, prison à vie quand on tue un policier ou un gendarme. Nadine s'énerve sur nos réseaux sociaux. Faites déjà appliquer les lois en vigueur au lieu d'en créer des nouvelles. Arrêtons, rajoute Pierre, avec les remises de peine, les aménagements. Et il est temps, oui, d'en finir avec le rappel à la loi, écrit Alain. Les délinquants s'en amusent et le savent. Fred, lui, ne cache pas sa colère. La justice de notre pays n'est plus au niveau actuellement.
Il y a quand même des mesures qui sont annoncées qui sont intéressantes. Fermeté stricte lorsque les forces de l'ordre sont prises à partie. Déferment systématique. Jugement rapide des auteurs. Rappel à la loi qui sera remplacé, vous l'avez dit, par des travaux d'intérêt général, voire une amende forfaitaire. Christopher est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Qu'est-ce que vous pensez de ces annonces?
Le truc, c'est que ça peut aussi attiser la haine. Je pense après derrière.
C'est-à-dire...
Pas forcément, ça peut les aider, ces gens-là, s'ils sont mis en prison, parce que vous voyez bien que les prisons sont surchargées actuellement. Alors, s'il faut encore les surcharger. Et puis surtout, pour moi, le plus important, c'est surtout l'après-prison. C'est qu'on se fait sortir des gens qui ne vont pas forcément trouver du travail, qui vont aussi, je pense, rentrer dans cette spirale, je veux dire, qu'ils n'ont rien à perdre. Vous voyez, parce qu'ils n'ont rien.
Non, mais en revenons sur la première partie de ce que vous avez dit, parce que pour le coup, je suis un peu surpris. Vous dites, ces annonces vont attiser la haine. Qu'est-ce qui attise la haine? Une fermeté plus stricte lorsque les forces de l'ordre sont prises à partie?
Tout à fait. Mais le problème, c'est que, comme je vous avais dit...
Non, mais Christopher, moi je veux bien, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi votre solution?
Mais le problème, c'est que c'était à la base. C'est comme je vous avais dit, c'est déjà avec les jeunes enfants. C'est ça le problème, c'est que pendant des années...
Mais attendez, les jeunes enfants, aujourd'hui ils ont 20 ans, alors moi je veux bien...
Oui, après ils grandissent.
Christopher, moi je veux bien qu'il y ait un plan à court terme et à long terme. À long terme, vous avez raison, la culture, l'éducation reprend à la base, etc. Je veux bien entendre ça, pourquoi pas. Sauf que c'est quand même aux parents de faire l'éducation, si vous me permettez.
Ce n'est pas
à l'école de faire l'éducation. Donc on ne peut pas être derrière chaque parent. Bon, mais en revanche, pour ceux qui aujourd'hui, par exemple, font du rodéo devant la place Bellecour, vous faites quoi concrètement? C'est ça qui m'intéresse. Vous n'êtes pas ferme, donc vous laissez faire du rodéo devant?
Ah non, pas du tout, non. C'est vrai que c'est scandaleux.
Mais vous me dites que ça attise la haine, donc c'est quoi votre solution?
Le truc, c'est qu'en fin de compte, comme je dis, on a tellement à laisser faire. Ces gamins-là, ils ont toujours été dans la rue. Je veux dire, pour eux, ils sont entre copains. Vous voyez,
j'entends bien, mais qu'est-ce que vous proposez? Vous me dites que ça attise la haine. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
C'est de revoir, je pense, avec ces gens-là, comme vous avez dit, faire peut-être des stages.
Mais ils veulent rien entendre. Certains, en tout cas. Ceux qui sont sur la moto ce jour-là, ils veulent rien entendre. Il y a un moment, ça fait 10 fois, 15 fois, 20 fois, 50 fois que tu leur dis.
Tout à fait. Après, ce qu'il faut faire...
Ah oui, vous dites tout à fait, mais vous n'êtes pas d'accord quand même. Vous êtes loin, d'ailleurs.
Après, le truc, c'est de faire quoi? C'est de faire plus de prison? Alors, ok. Après, le truc, c'est que souvent...
Moi, j'ai une solution pour le rodéo. J'en ai une directe, je vous le dis. J'enlève la moto.
C'est l'année dernière.
J'enlève la moto. C'est très simple. Oui, je ne les mets pas en prison. Rodéo, tu fais du rodéo dans un lieu où tu ne dois pas en faire. Hop, je pique la moto. C'est rapide. J'ai envie de dire, ça n'enlève pas la liberté des uns et des autres. Mais je pense que c'est suffisamment dissuasif. Vous voyez? Je pense qu'ils vont le faire pas longtemps. Avec
tout
mon système.
Mais aussi, c'est quand on enlève aussi des fois un permis de conduire, ou quoi que ce soit, les gens ils conduisent toujours. Vous voyez.
Mais Christopher, j'entends là aussi ce que vous dites, mais proposez-moi quelque chose.
C'est sûr, mais je veux dire, on aurait dû être ferme depuis bien longtemps. Mais le problème,
mais
c'est
oui, mais c'est passé tout ça. Bah oui, comme on ne l'a pas été, alors comme on ne l'a pas été, il ne faut plus l'être.
Bah non, mais c'est que surtout, c'est qu'on le paye maintenant. C'est surtout ça. C'est, je veux dire, on a tellement laissé faire, mais c'est que maintenant, on le paye. C'est ça qui est malheureux.
Mais vous êtes, franchement, vous êtes formidable, Christopher. C'est-à-dire qu'au moment où on décide d'être ferme, l'argument que vous dites, ah ben non, c'est trop tard, parce qu'on n'avait qu'à l'être avant. Et vous vous dites, ça va attiser la haine. Donc, c'est sans fin, votre truc.
Bah, le truc, c'est que vous voyez, c'est que là, ces enfants-là, qui étaient à l'époque, ils sont devenus parents aussi. Mmh. Alors, ils ne montrent pas forcément non plus l'exemple à leurs enfants. C'est ça le problème. Et c'est que, comme j'avais déjà dit aussi la dernière fois, c'est vrai que les parents, pour moi, c'est la base. Et c'est vrai que ceux qui font des enfants et qui s'en occupent pas, puis les enfants à 3 ans qui sont dans la rue, ça, c'est pas normal. Ça, faut les sanctionner, vous voyez ? C'est là où il faut y aller. Mais le problème, c'est qu'on attend, puis après, quand ils sont grands, bah, vous voyez ? C'est ça. C'est qu'en fin de compte, c'est vraiment prendre conscience de son parent. Bon, c'est sûr, je veux dire, quand on a un enfant, c'est pour la vie. Vous voyez ? Je veux dire, on peut pas dire, voilà, il y a beaucoup de parents... Mais il y a beaucoup de parents, après, dans n'importe quel milieu social, hein, je ne dis pas forcément que vraiment dans un côté, mais il y a des parents qui font juste des gosses et puis ils ne s'en occupent pas.
C'est pas faux.
Et c'est ça le problème de la société. Vous voyez, et c'est pour ça que moi, ça ne me surprend pas et que ça peut même en empirer encore.
Merci Christopher. Pendant que vous parliez, je pensais à des gens qui partent en vacances parfois dans des clubs, vous savez, des clubs de vacances. Et ils reviennent. Donc ils partent en juillet ou en août et puis ils reviennent. Et quand ils reviennent, ils disent « Oh, formidable, j'étais à ce club, je ne vais pas citer de nom, formidable, hein, on n'a pas vu les enfants de la journée, ils étaient au club enfants, donc on ne les voit pas. » Alors tu dis « Tiens, c'est sympa, ils passent des vacances et leur but, c'est de ne pas voir leurs enfants pendant les vacances. » Mais vous avez raison, Christopher, il y en a, ça peut exister.
Bah, je vous remercie quand même d'avoir laissé la parole.
Ah bah non, mais c'était sympa notre petit dialogue. Parce que
surtout, c'est que moi, je parle pour du vécu.
Oui. Alors, c'est ça. Et après, moi, je parle de quoi ? Je parle pour de la théorie ?
Non, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment parler aux gens qui connaissent un petit peu le milieu. C'est vrai que les politiques, ils connaissent pas, ils sont dans leur petit monde. Alors, c'est bien beau de dire des choses.
Tout le monde est déconnecté.
Bah, c'est ça.
Mais c'est vrai moi je parle souvent des banlieues, j'ai pas grandi ni vécu dans les banlieues, vous avez raison Christopher, ce que vous dites est vrai. Mais je pourrais pas parler non plus du Covid parce que je l'ai pas eu, je pourrais pas parler de football parce que j'ai jamais joué au plus haut niveau, vous voyez. Après c'est compliqué, hein.
Tout à fait, mais moi j'ai vécu des très bons moments aussi dans les quartiers, vous voyez, pas que des mauvais côtés.
Mais à ça j'en suis sûr. Ça, j'en suis absolument sûr. Je salue Greg Caranoni qui a le sourire aux lèvres aujourd'hui.
Vous voyez mon sourire derrière mon masque ?
Je vois votre sourire derrière. Si les journalistes ne devaient parler que de ce qu'ils connaissent intimement, d'abord, ils parleraient peut-être moins. Mais c'est toujours une approche forcément parfois lointaine. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est le travail du journaliste d'essayer de témoigner, de rencontrer, de se projeter, de prendre des notes, d'aller dans un univers, voilà, et d'enquêter, de rapporter ensuite tout ce qu'il a vu, entendu, etc. C'est beau, non ?
C'est magnifique. Entre ça et j'ai pas vu les enfants des vacances, c'était super.
Ah non, les enfants des vacances, mais je veux dire, c'est vrai. C'est vrai, vous avez entendu ça comme moi. Ah, on n'a pas vu nos enfants. Ah, c'est super. Ce club, c'est formidable parce qu'ils jouent toute la journée. Donc on est tranquille et on ne les voit pas. Nous aurons d'autres sujets aujourd'hui. On pourrait parler du pass sanitaire si vous le souhaitez. On pourra parler également des terrasses. Ils nous ont inventé les jauges des terrasses. Ça, c'est formidable. Quand je dis ils. L'administration.
Ça vous révolte un peu, non ?
Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les jauges en terrasse, il n'y a que nous. J'ai regardé en Europe, il n'y a que nous qui faisons. Il y a parfois des protocoles à l'étranger à mettre entre chaque table, etc. Là, 50%. Donc, une terrasse, ça représente sans doute 25% généralement de tout l'accueil global du restaurant, nous sommes d'accord. C'est à peu près 25 ou 30%, j'imagine. L'intérieur, ça doit être 70%, 25% ou 30% à l'extérieur. Et là, tu vas couper les 30% qui te restent, il va en rester 15%. Donc tu vas ouvrir pour trois tables.
Ça du coup, ça. Vous allez laisser votre place ?
c'est pas la question. Moi, je mangerai par terre.
Ah oui.
Et on pourra pas aller aux toilettes, vous êtes au courant ? Ah, on n'aura pas le droit d'entrer à l'intérieur. Donc on n'aura pas le droit d'aller aux toilettes quand on va au restaurant. C'est pipi ou manger. Mais c'est pas les deux ensemble.
Faudra pas boire beaucoup du coup.
Exactement. Allez, la pause, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les mesures de Jean Castex ont été dévoilées hier à l'issue d'une réunion organisée à Matignon par le Premier ministre avec Éric Dupond-Moretti, avec Gérald Darmanin et les représentants syndicaux. Et à l'issue de cette réunion, Jean Castex a promis une aggravation des sanctions pour ceux qui s'attaquent aux forces de l'ordre. Une peine de sûreté passant de 22 à 30 ans pour les auteurs de crimes contre les forces de l'ordre, des possibilités de réduction de peine strictement limitées, la création d'un délit spécifique pour réprimer plus durement ces attaques. Donc ces annonces, quand même, elles existent. Nous sommes avec un policier, Fabrice, bonjour, qui habite Avignon.
Fabrice, bonjour, Pascal.
Bonjour, vous habitez Avignon, donc vous êtes au cœur...
Non, en Savoie.
Ah, vous êtes en Savoie, pardon. Excusez-moi. Fabrice, donc vous êtes policier, quand vous entendez... ces annonces-là, j'imagine quand même que vous êtes satisfait, hein, que vous acquiescez.
Alors les mesures, on peut dire qu'elles vont dans le bon sens, dans un premier temps. Cependant, parce que le cependant est important, il faut maintenir la pression. Il faut maintenir la pression pour les concrétiser. C'est-à-dire que ça reste des annonces qui n'empêcheront pas le délinquant de passer à l'acte. Par contre, c'est des sanctions fermes qui dissuaderont ces individus de passer à l'acte. Des sanctions fermes qui les dissuaderont. La nuance est importante. Parce que la plupart des annonces existent déjà. Ou elles vont être abrogées ou remplacées. Mais les 30 ans en bande organisée, ça existe déjà. Le rappel à la loi 800 000, heureusement, il a fallu un drame pour qu'au jour d'aujourd'hui, on puisse, entre guillemets, prendre à bras le corps et se placer autour d'une table ronde avec le garde des sceaux, la justice, pour essayer de remodifier et d'être plus lourd dans les sanctions. Il faut qu'elles soient automatiquement et désormais écrites et appliquées et en correspondance avec les magistrats. Il faut que tous les magistrats aussi acquiescent, parce qu'on en entend très peu sur le sujet des magistrats. Et il faut être ferme dès les premiers événements envers l'ensemble des attaques qui seront portées aux forces de l'ordre. Vous saviez, dans le temps, on avait les peines planchées. Vous commettez un vol, la deuxième fois, c'était peut-être qu'un œuf, mais on appliquait la peine planchée. Eh bien, je pense qu'il va falloir être ferme. Donc, pour continuer à protéger nous, policiers, gendarmes, forces de l'ordre, pompiers, et réaffirmer, et c'est là que l'État va réaffirmer, entre guillemets, sa véritable autorité. Mais il faut aussi énormément que les magistrats puissent, enfin des juges, des magistrats, pourquoi pas des procureurs viennent apporter, enfin je sais pas, nous on apporte.
Mais ce qui est intéressant, c'est pour la délinquance, alors je sais pas si on dit petite délinquance ou délinquance moyenne, mais par exemple les refus d'obtempérer, il y en a eu 24 000 par exemple en 2019. Monsieur Castex dit faut qu'il soit puni plus fortement, parce que c'est peut-être toute cette petite délinquance qui pourrit le quotidien des uns et des autres.
Vous l'avez très bien rappelé par le phénomène et j'étais déjà intervenu à l'antenne sur le refus d'obtempérer, et je vous avais même dit que souvent le bénéfice du doute profitait entre guillemets aux délinquants. Alors qu'on le punisse plus fortement, puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende, c'est la peine maximale. Un refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer un barrage et une moto dans une cité qui ne veut pas s'arrêter, quand on fonce sur une force de police et que c'est un refus d'obtempérer, il est quand même plus grave qu'une petite moto. Certes, il y a des nuances dans le refus d'obtempérer. Mais un an de prison, la plupart des peines sont aménagées.
On voit bien la difficulté. En fait, il faut changer les mentalités avec des gens, parfois, hein, qui, sur le terrain, ne veulent pas obtempérer, ne veulent pas écouter et ne veulent pas se soumettre à l'autorité. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a 30 ou 40 ans, cette petite délinquance, moyenne délinquance, elle existait moins. C'est-à-dire que le policier arrivait et il était quand même signe d'autorité. Aujourd'hui, il vient sur le terrain et on le caillasse, on l'insulte, etc.
Ouais, mais il a peur à changer de camp.
Vous avez peur, par exemple, vous-même, quel policier ?
Je ne peux pas parler à l'ensemble de mes collègues, mais vous savez très bien qu'à un moment où...
Mais vous avez peur, Fabrice ?
On ne peut pas le concrétiser par une forme de peur, mais vous aurez toujours une appréhension de se dire, est-ce qu'on ne va pas commettre un mauvais acte envers les personnes sur lesquelles on va intervenir ? Ça peut être des perturbateurs, vous avez vu, des simples perturbateurs. Notre collègue, il y a... a perdu la vie.
Bien
sûr. Perturbateurs au départ.
Vous êtes sur le terrain vous-même ?
Oui, on est tous. Bah, j'ai 24 ans, 24 années de police, mais j'apprends tous les jours. Le problème, c'est qu'on doit apprendre différemment maintenant. Et je vous dis.
Ça veut dire quoi apprendre différemment?
Bah, on apprend. Bah, comme vous le disiez, il y a 40 ans, la peur du gendarme.
Elle n'existe plus.
Ah ben non, aujourd'hui vous êtes déjà rincé. Vous pouvez même pas laisser votre véhicule pour intervenir sur un différend familial en bas d'un immeuble. Vous revenez à votre voiture, il n'y a plus de voiture.
Et vous voyez, c'est souvent je dis cette émission est formidable précisément pour ça, pour les exemples. Ce que vous dites est terrible.
Ah ben c'est terrible. Et puis la nuit, les effectifs, c'est terrible. Quand vous voyez que vous déjà encadrez tous nos pompiers qui vont éteindre un incendie, c'est une patrouille de police secours qui est engagée avec eux pour éviter qu'ils se fassent caillasser.
Enfin, c'est fascinant.
C'est l'arrivée du bleu.
Mais les pompiers viennent éteindre un incendie, ils ne peuvent pas l'éteindre tranquillement.
Ah ben non, vous êtes obligé de les escorter la nuit dans les quartiers sensibles. Ah non, ça tout le monde pourra le confirmer de tout professionnel et forces de l'ordre sur le terrain actuellement. Moi je vous dis maintenant, pour laisser l'antenne à d'autres et d'autres peut-être réactions du côté de la magistrature, concrétiser au stade Beauvau, dans le cadre de la mesure de sécurité place Beauvau, et il faut rien lâcher, il faut qu'on puisse nous protéger. Et qu'on n'ait plus à subir ce drame, et si encore un drame arrive derrière. Voilà, là, il faut préciser toutes ces réformes. Il faut les préciser. Là, c'est des grandes lignes qui sont sorties, et je fais confiance à nos collègues qui seront autour de la table de ronde pour nous protéger, nous, en province, et Pascal Praud. Sur votre antenne, j'ai l'habitude de réagir, et je voudrais simplement, en tant que policier, pour cette marche citoyenne du 19 mai, qu'un jour on puisse entendre un policier, personne ne l'a proposé, en accord avec la SNCF, de pouvoir accorder à tous nos collègues de province qui ne pourront pas se déplacer uniquement à Paris, parce que c'est uniquement à Paris, la gratuité des transports, avec nos cartes de visite, pour pouvoir rejoindre l'ensemble de nos collègues et qu'aucun collègue ne soit lésé le 19 mai pour que ce jour...
Je suis d'accord avec vous, mais alors, votre journée est très curieuse parce que c'est la réouverture, vous avez choisi la réouverture des bars, restaurants, etc. Donc il y aura une actualité forte ce jour-là et vous avez choisi une journée en semaine.
Ah, c'est pas moi qui choisis.
Oui, mais franchement, il y aurait peut-être davantage d'écho si vous aviez fait ça un samedi, un dimanche et les gens se seraient peut-être joints à votre manifestation alors que les gens travaillent un mercredi.
Moi, j'étais très étonné du choix de la date. Il y aura beaucoup de personnes, mais je vous dis, nous offrir la gratuité pour tous les collègues de province qui ne sont pas lésés. C'est énorme et merci à votre antenne de pouvoir le permettre parce que j'ai essayé d'ouvrir les portes. Et vous voyez, même dans notre milieu, c'est pas toujours évident de se faire écouter et entendre.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Fabrice. Merci beaucoup, on va marquer une nouvelle pause et à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et Laurent, de quoi va-t-on parler jusqu'à 14h30?
Nous vous attendons sur d'autres sujets au standard. Une candidate, La République En Marche, voilée sur une affiche de campagne des élections départementales. Il s'agit d'une candidate remplaçante dans le canton de Montpellier. Le délégué général du parti, Stanislas Guérini, a fait part de son mécontentement sur Twitter. Les valeurs portées par La République En Marche ne sont pas compatibles avec le port ostentatoire de signes religieux sur un document de campagne électorale. Soit ces candidats changent leurs photos, soit La République En Marche leur retirera leur soutien. Fin de citation. Alors êtes-vous choqué par cette affiche, la députée LREM du Loiret, Caroline Janvier, ne l'est pas.
Je considère qu'il faut respecter la loi, et donc rien dans la loi n'interdit le port du voile pour les élections. Une candidate voilée, non, ça ne me dérange pas. Je ne soutiens pas le port du voile en tant que tel, mais je considère que dans ces cas-là, il faut qu'on interdise, par exemple, les médailles de baptême.
Caroline Janvier, députée LREM, interrogée par Jacques Serret, Stanislas Guérini, le délégué général du parti, sera l'invité de Thomas Soto ce soir sur RTL à 18h15. C'est choquant et provocateur, nous dit Marie sur nos réseaux sociaux et la page Facebook RTL, les auditeurs à la parole. La religion n'a pas sa place sur une affiche de campagne, rajoute Charles. La laïcité en prend un coup pour Marie-Françoise. Après, l'anstiriste, un énorme coup de projecteur gratuit pour cette candidate. On va parler d'elle partout. Elle ne bafoue aucune règle. Lance d'homme maintenant aux électeurs de trancher, de s'exprimer par leur vote. Lionel parle d'une pure provocation. Partagez-vous ses avis. 32-10. Matignon a présenté les conditions du déconfinement et des réouvertures. Restaurateurs, commerçants, cette histoire de jauge est-elle suffisamment claire? On parle d'une réouverture progressive. 50% de la capacité des terrasses pour démarrer. La technocratie est-elle en grande forme? Et bien bientôt, écrit Evelyne sur nos réseaux sociaux. dessus. Il va falloir sortir avec un mètre pour être sûr que l'on respecte bien le 8 mètres carrés par personne dans les magasins. Mais les boîtes de nuit restent fermées alors que d'autres établissements vont ouvrir d'ici cet été. Écoutez le député de la Manche, Philippe Gosselin, hier à l'Assemblée nationale.
Savez-vous, je sais que ça fera sourire, que les clubs libertins, eux, vont pouvoir réouvrir. Et il est bien connu que dans ces clubs, on pratique tous les gestes barrières. C'est même d'ailleurs pour ça qu'on y va. On a envie de se faire plaisir. Tiens, ce soir, je vais me faire un petit geste barrière. Voilà. Bon, vous voyez bien l'incohérence. On va empêcher des jeunes d'aller éventuellement danser. Voilà en absurdie où nous en sommes.
Des clubs libertins qui vont rouvrir, des boîtes de nuit fermées. Est-on en absurdie ? 3210, 3210 dès maintenant sur votre téléphone.
Non mais c'est vrai que, comme le dit très justement ce député, le club libertin n'est pas l'endroit où on respecte mieux le geste barrière, disons-le. Mais ça peut vous faire réagir aussi. Les discothèques seront fermées. Vous pourrez vous donner votre avis. J'ai peur, en revanche, que la conclusion de ce qu'a dit ce député, c'est que ce soit les clubs libertins qui ferment peut-être ou qui ne rouvrent pas. Quand je dis j'ai peur, c'est pas à titre personnel, bien évidemment.
Ah, ça me rassure.
Vous aurez compris que je dis cela. Nous étions avec Fabrice. Je voudrais lui préciser que, en fait, au départ, c'était une marche le 19 mai qui était annoncée par les syndicats de police. La marche est annulée, mais en revanche, il y aura un rassemblement devant l'Assemblée nationale le 19 mai. Nous sommes avec Dominique, un ancien policier, et qui réagit, comme nous réagissons depuis 13 heures, sur les mesures de Jean Castex annoncées hier. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pro.
Vous êtes un ancien policier.
Oui. Comme vous le disiez précédemment, il y a 40 ans de ça, précisément, je débutais ma carrière dans la police nationale et dans les CRS. Mmh. Et déjà à cette époque, en 77, donc, dans les quartiers dits chauds, on faisait attention quand on passait en bas des barres d'immeubles. Parce qu'il y avait déjà des projections de machines à laver ou de boules de pétanque, etc. Depuis, effectivement, ça ne s'est pas arrangé pour en arriver à ce qu'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire que maintenant, le petit délinquant ou le moyen, comme vous l'avez qualifié tout à l'heure, eh ben, il sort son arme et puis avant de se faire arrêter, il tire et il tue un fonctionnaire de police. Voilà.
Je suis d'accord avec vous. Dominique, mais que faire ?
Ben, que faire ? Il faudrait déjà arrêter les opérations de com', parce que ce qu'a fait Castex là, dernièrement en réunissant les syndicats, c'est purement et simplement qu'une opération de com'. Le collègue précédemment disait que tout l'arsenal juridique est déjà prévu pour ce genre de délinquance, mmh. et notamment de peines planchers. Donc là, il a fait...
Il n'y en a plus de peines planchers. Hein. Les peines planchers, c'était sous Nicolas Sarkozy. Elles n'ont pas été appliquées d'ailleurs. Et depuis, oui, l'idée, c'est qu'il n'y a plus de peines planchers. Les magistrats n'en veulent pas. Ils veulent l'individualisation de la peine. Et puis, c'est une manière de garder le pouvoir.
Tout à fait, tout à fait. Et donc, vous me demandez ce qu'il faut faire.
Bah oui, puisque vous avez peut-être une expertise.
Je pense que déjà tous les binationaux, tous ceux qui commettent ce genre de forfait, il faut les renvoyer chez eux. C'est clair.
Chez eux, ils n'y sont jamais allés sans doute. Hein.
Oui,
parce que chez eux, c'est en France.
Oui, mais vous savez.
Ils sont nés sur le sol français.
Oui, je suis d'accord avec vous. Tout à fait d'accord avec vous.
Et ah oui, mais comment vous faites ? Ça, c'est intéressant. Vous voyez, vous dites, ça, c'est vraiment intéressant ce que vous venez de dire.
Mais
est-ce que c'est possible ? Je ne crois même pas que ce soit possible.
Bah, il faut légiférer pour ça. Hein.
Oui, donc c'est perte de la nationalité. Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'un binational ou les binationaux perdent de la nationalité, en l'occurrence française, mais vous vous rendez compte la discrimination par rapport à quelqu'un qui n'est pas binational. Par définition, lui, il ne pourrait pas perdre sa nationalité.
Qui n'est pas binational. Vous savez, ces gens qu'on voit trop régulièrement d'ailleurs, qui, le jour d'une manifestation quelconque, sortent leur drapeau d'origine et puis crachent sur le drapeau français, l'État où ils sont nés, vous le rappeliez à l'instant, c'est ceux-là qui doivent être punis sévèrement. Là, les députés qui un jour ont dit ben pour ce genre de personnage, il faut enlever les allocations familiales et tous les avantages que ces gens, dont ces gens bénéficient. Eh ben, il faut le faire. Simplement, au niveau politique, en France, on est... Comment je vais vous dire ? Les politiques sont embrigadés dans le fait qu'ils ne pensent qu'à leur prochaine réélection.
J'espère qu'il n'y a pas que ça quand même. S'il n'y avait que ça, ce serait désolant. Qu'ils y pensent, pourquoi pas. Mais j'espère qu'ils ne pensent pas qu'à cela. Je ne crois pas même. Je pense qu'ils sont quand même dans l'action.
Bien sûr que si. Mais bien sûr, il ne faut pas jeter l'opprobre sur tous les politiques, comme on ne peut pas jeter l'opprobre sur tous les policiers. Tous les policiers ne sont pas des criminels, parce qu'on a des faits aussi là-dessus. Mmh. On pourrait en parler également de ça. Donc, mais je vous dis, le politique, il ne vit pas dans les quartiers, d'accord. Il n'est pas perturbé par les problèmes de deal, de drogue, de cages d'escalier dégueulasses, etc. Et souvent de fois, il n'est pas agressé, encore que. Et donc, il n'est pas concerné par le problème. Lui, son problème, c'est sa prochaine réélection. C'est pas la peine plancher. Il s'en fout de tout ça. Donc, c'est De Gaulle qui disait que la politique est une chose trop importante pour la laisser aux mains des politiques. Ça, c'est mon avis personnel.
Oui, alors c'est une phrase célèbre. On la prête parfois à Clémenceau. La guerre est une chose trop sérieuse pour la laisser faire par des militaires, oui. Je crois. Mais bon, et merci en tout cas de votre avis. Mais on voit bien dans nos échanges que sur le constat, on peut partager les mêmes avis. Mais dès qu'il s'agit de trouver des solutions, mettre en place des choses nouvelles, c'est pas simple. On parlera encore avec Anna, qui sera notre dernier témoin sur ce sujet des forces de l'ordre dans une seconde. Et puis ensuite, on pourra évoquer le voile, cette affiche de La République En Marche avec une candidate qui est voilée. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier.
Cette année sera-t-elle enfin la bonne pour un succès français à l'Eurovision? C'est la question que l'on se pose chaque année depuis la victoire de Marie-Myriam en 1977.
Oh non, vous n'allez pas nous refaire Marie-Myriam.
Mais
attendez, arrêtez. Mais ça, c'est pas possible.
Non, mais là, j'ai une information.
Non, mais il y a des sujets, il ne faut plus les traiter. Pascal.
Sachez-le.
Non mais là, on n'en gagne plus l'Eurovision, plus jamais. C'est comme Roland-Garros, c'est comme le Tour de France. Voilà, c'est fini. Mais
peut-être que vous allez vous tromper, parce qu'actuellement la France, avec la chanson de Barbara Pravi, est en tête des favoris des bookmakers.
C'est pas vrai. Elle est bien cette chanson.
100% de chances de l'emporter selon les parieurs pour la chanson Voilà et la grande finale.
Mais ressemble un peu à Padam Padam. Vous vous souvenez de Padam Padam de... Voilà.
Vous avez un pronostic, Pascal, sur ce sujet?
Non, quand je fais un pronostic, généralement, c'est le contraire qui arrive.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Non, mais écoutez, Padam, 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 vous savez cette chanson d'Edith Piaf. Padam, 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 il me vient d'arriver dans mes bras.
Il arrive en courant derrière moi.
Mais c'était pas du tout les paroles.
Padam, voilà.
Donc ça ressemble un peu quand même. Et on peut pas avoir écouté un peu Marie-Myriam parce que ça égayerait notre actualité si lourde. Qui n'a plus gagné depuis 77, c'est ça, Laurent?
1977, oui. Victoire de Marie-Myriam.
Mais qui n'est pas né.
Ça n'aura jamais pour.
Hein? Bon. Anna est là. Ah, ça, c'est voilà. Je suis partagé parce que si chanson française gagnait l'Eurovision, ça me ferait sûrement très plaisir, mais on n'entendrait plus Marie-Myriam.
C'est marrant, il y a à peu près 1 minute 30, vous disiez on va pas faire ce sujet.
Oui, vous avez raison. Non, mais il y a 3 trucs qui m'amusent, à chaque fois je le dis, hein. C'est Yannick Noah, 1983, Tour de France, Laurent Fignon, c'est Bernard Hinault qui a gagné le dernier Tour de France, je crois que c'est 85, me semble-t-il. Si Christian Olivier m'écoute, je pense qu'il le sait par cœur. Et puis Marie-Myriam. Avocate Anna, présentez-vous. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal. Et vous avez une très belle voix, hein. Vous nous avez fait de la dite Piaf.
Ah bah oui, ça c'est...
La même.
Il se moque un peu de moi quand je chante, mais j'essaye. Bon, les mesures que vous avez entendues hier, alors je rappelle, tout le monde ne les a peut-être pas entendues, il y a peine de sûreté passant de 22 à 30 ans pour les auteurs de crimes contre les forces de l'ordre, il y a possibilité de réduction de peine strictement limitée, il y a également une fermeté stricte lorsque les forces de l'ordre sont prises à partie, un déferment systématique. Peut-être que la chose la plus importante, c'est un jugement rapide des auteurs, rapide. Aujourd'hui, le problème numéro un de la justice, c'est peut-être le temps.
Alors, le problème numéro un de la justice, effectivement, c'est le temps, mais je ne pense pas que ce soit parce que les juges n'ont pas envie de juger rapidement, c'est parce qu'il y a trop d'affaires et très peu très peu de magistrats, très peu de possibilités d'audience. On nous a fait un très beau palais de justice et on a mis des millions dedans et on n'a pas été foutus de mettre de l'argent tout simplement pour avoir du matériel et d'avoir des renforts humains. Donc déjà, ça, c'est un vœu pieux, mais il faudrait passer par autre chose que par des annonces. Pour le reste, quoi dire, que ce sont des très belles annonces, mais il me semble à moi que tout ça existe déjà. C'est juste une volonté des magistrats. Tout ça existe déjà. Je veux dire que la perpétuité, les peines de sûreté, tout ça, ça existe dans l'arsenal pénal. Donc je vois pas très bien ce que ça va changer.
Bah, écoutez, je pense que ce qui peut changer, c'est un état d'esprit, c'est un climat.
Il faudrait changer l'état d'esprit des magistrats, parce que c'est eux qui prononcent les peines et qui sont maîtres dans leur prétoire et dans ce qu'ils mettent dans leur jugement. Parce que la réalité, ou le procureur, qui, déjà, que ce soit un magistrat, enfin, on ne peut pas être jugé par... Enfin, déjà, ça, c'est un problème qu'il faudrait régler. Mais tout ça, ça existe déjà. Il me semble que l'autorité de la force publique, lorsqu'on s'y attaque, est une circonstance aggravante. Donc, c'est très bien de le dire. Alors, c'est très bien parce que les forces de l'ordre se sentent soutenues. Mais tout ça, ça existe déjà.
Non mais on tourne en rond parce que on ne dit que des choses. On tourne en rond parce que je n'entends que les lois existent, il faut les appliquer, etc. L'histoire du rappel à la loi, je comprends en fait maintenant que le rappel à la loi on le fait parce que ça encombre tellement les tribunaux qu'on préfère faire un rappel à la loi même pour des affaires qui mériteraient sans doute un procès.
Vous savez comment ça se passe, un rappel à la loi? Vous êtes convoqué, vous avez un monsieur derrière un bureau qui vous dit « Ah bah, c'est pas bien, machin truc », alors que vous avez...
Non mais tout le monde s'en fout, un rappel à la loi, ça fait rire les gens, voilà. Mais j'imagine que c'est quand même, et c'est ce que disait tout à l'heure un intervenant dans le journal de Christelle Robière, j'imagine que c'est pour des petites choses qu'on fait un rappel à la loi. Je n'ose imaginer que ce soit pour des infractions importantes. Quand tu insultes un policier, t'as pas de rappel à la loi. Je ne vous parle même pas de faits de violence ou de voies de fait.
Mais écoutez, le problème, c'est que tout existe et qu'on empile, comme d'habitude, les lois, les effets d'annonce et tout ça, mais tout ça existe. C'est qu'une volonté des juges et des moyens. Maintenant, vous demandiez quelle était la solution. Moi, outre une petite révolution dans l'état d'esprit des magistrats, de faire plus de prison et tout ça, on est bien d'accord, mais je pense aussi que ces personnes-là, en général, ce qu'elles respectent, c'est l'argent. Elles, ce qu'elles font, c'est le nerf de la guerre, c'est le trafic de drogue, nous a-t-on dit. Pourquoi ? Parce que c'est lucratif, c'est l'argent. Alors, quand on a quelqu'un qui habite dans un HLM, qui est au RSA et qui se balade dans un gros bolide immatriculé en Allemagne, j'aimerais qu'on puisse se poser la question, comment ça se fait qu'il a un gros bolide immatriculé en Allemagne ? Parce que c'est là où ça va se jouer les choses. Je pense que c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors bien sûr, les allocations familiales et tout ça, mais ça c'est petit joueur, parce qu'à côté, le trafic de drogue des enfants qui ramènent de l'argent aussi, ça existe. D'accord ? Les montres en or à être habillées de grandes marques, de grands couturiers de l'avenue Montaigne, avec des montres qui valent des fortunes et tout ça, les signes extérieurs de richesse, ça ils respectent, ça ils en veulent, ça ils aiment. Et si vous leur retirez ça, vous leur retirez la dignité, leur honneur. Et c'est là-dessus. Alors moi, je veux bien qu'on fasse des contrôles fiscaux à des sociétés qui vont être un petit peu en marge de machin, mais qui font quand même travailler des gens et qui produisent des richesses et qui donnent du travail. Mais il n'y a jamais de contrôle fiscaux des particuliers dans le 93. Et ça, je le tiens de quelqu'un qui a travaillé dans un service et très bien placé des contrôles fiscaux en règle générale. Ah non, on ne va pas dans le 93, on va avoir des ennuis. Donc, quand on commence déjà par frapper là où ça fait mal, on leur retire tout ça et vous allez voir, ils vont se sentir beaucoup moins puissants déjà. Parce que face à eux, ils ont de l'argent dans leur poche, ils ont des liasses de billets, ils ont un fonctionnaire de police qui est payé 1 500 €, ils ne le respectent pas.
Ben merci Anna de cette analyse, merci beaucoup. Vous étiez la dernière à intervenir sur la réunion des syndicats de police hier à Matignon et les annonces de Jean Castex. On va parler du voile avec cette affiche étonnante, une candidate de la République en marche qui était sur une affiche avec un voile, et Stanislas Guérini, qui est un des représentants de la
de la République En Marche a condamné cette image et demandé à sa candidate de changer de photo. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous sommes avec Richard pour ce sujet, avec la candidate de La République En Marche voilée sur une affiche de campagne des élections départementales. Stanislas Guérini, qui représente La République En Marche, a fait un tweet. Les valeurs portées par La République En Marche ne sont pas compatibles avec le port ostentatoire de signes religieux sur un document de campagne électorale. Soit ces candidats changent leur photo, soit La République En Marche leur retirera le soutien. Il sera d'ailleurs ce soir Stanislas Guérini, l'invité de Thomas Soto à 18h15. La question que ça pose, elle est simple d'ailleurs. Est-ce que on peut, sur une affiche électorale, avoir un signe religieux ostentatoire, que ce soit d'ailleurs, là en l'occurrence c'est l'islam, mais ça pourrait être pourquoi pas la religion catholique ou une autre religion. Est-ce que c'est possible selon vous, ou est-ce que c'est une atteinte à la laïcité? Nous sommes donc avec Richard, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi je trouve ça tout simplement honteux, parce que c'est vraiment une revendication politique que de porter ce voile, surtout là sur une affiche avant des élections, une affiche électorale, parce que pour moi, je veux dire, on peut tout à fait vivre sa religion et porter, je vais dire n'importe quoi, mais que ce soit une étoile de David, la croix pour les catholiques, une main de Fatima pour les personnes musulmanes. Je veux dire, il y a quand même des façons de pouvoir être dans sa religion sans être dans cette démonstration politique, parce qu'il s'agit de rien d'autre que ça. Surtout quand on sait que dans les pays musulmans, nombre de femmes sont battues, se battent pour justement avoir des droits, avoir le droit de ne plus le porter. Je trouve ça, dans un pays comme la France, aberrant et vraiment choquant que des femmes, au contraire, se battent pour le porter et se servent d'un moyen politique pour le mettre en avant. Ça, je trouve ça complètement honteux, et que des gens puissent dire « Oui, mais alors, comme j'ai entendu tout à l'heure, là, une dame qui disait « Alors, on n'a qu'à retirer les médailles de baptême. » Ça n'a rien à voir, et justement, le voile, c'est vraiment une revendication. C'est vraiment porter sa revendication. Et en ça, c'est gênant.
Bah, c'est vrai que quand j'entends effectivement la médaille de baptême comparée au voile, bien sûr que ce n'est pas comparable. Et ceux qui le disent le savent d'ailleurs, parce que ce n'est pas exactement la même chose, c'est pas la même histoire forcément, et puis c'est pas ostentatoire de la même manière. Mais cette jeune femme, donc, vous êtes d'accord avec Stanislas Guérini en l'espèce. Et je vais vous poser une question. Si par exemple c'était un prêtre de l'Église catholique qui était sur une affiche et qui était sur cette affiche avec sa soutane, vous réagiriez de la même manière?
Alors là, ce serait de la même manière, parce que ce serait mettre en avant sa religion. Et je dirais que dès l'instant, on arrive sur une revendication extrémiste, parce que c'est ça en fait. Du coup, vu que c'est extrémiste, c'est politique. Et donc ça n'aurait pas à faire droit à cet endroit-là, justement. Parce que, oui, comme je vous disais au départ, je veux dire, on peut porter une croix, on peut porter une étoile de David, on peut porter une main de Fatima, on est dans sa religion. Moi, je suis complètement athée, donc je veux dire, pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise religion. Dès l'instant où elle n'empiète pas, je dirais, ben voilà, typiquement sur la vie publique, et voir une chaîne avec quelque chose, c'est pas justement ostentatoire comme pourrait l'être une tenue de curé, ou là en l'occurrence ce voile, quoi.
Eh bien, merci. À l'Assemblée nationale, il y a eu l'abbé Pierre était à l'Assemblée nationale, il était en soutane, il y a eu le chanoine Kir, il y a eu Monseigneur Dupont-Loup. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose.
Non.
Moi non plus.
Monseigneur Dupont-Loup, qui était à l'Assemblée nationale. Nous allons marquer une pause, et c'est un sujet qui vous fait réagir. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Il est 14h. Le flash avec Hortense Crépin.
Un homme armé toujours en fuite est recherché dans les Cévennes, au Plantier. Ce matin, il a tué par balle son patron et un collègue dans la Syrie de ce village de 250 habitants. Un important dispositif est déployé pour le retrouver. Les habitants du secteur sont invités à rester chez eux. L'hommage à Éric Masson doit débuter dans une heure à Avignon en présence de Jean Castex, 6 jours après la mort de ce policier en intervention. Hier, le chef du gouvernement a reçu les syndicats de police et promet notamment la fin du rappel à la loi, remplacé par des amendes et des travaux d'intérêt général. Et puis concernant l'enquête, le tireur présumé doit être présenté à des juges cet après-midi avec son complice. Identifié par un collègue du brigadier, il nie toujours les faits. 30 ans de réclusion criminelle, la peine maximale requise par l'avocate générale contre Nordal Lelandais dans le procès du meurtre d'Arthur Noyer. Le verdict devrait tomber ce soir aux assises de Savoie. Première sortie officielle pour la reine Elisabeth depuis la mort du prince Philippe. En présence de son fils, le prince Charles, la souveraine s'est exprimée au Parlement pour la traditionnelle lecture du discours du Premier ministre, ouvrant ainsi la session parlementaire. En football, Marco Verratti, blessé, sera absent sur le terrain pendant 4 à 6 semaines. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est aussi incertain pour l'Euro avec l'Italie. Et puis en cyclisme, la 4e étape du Giro, les coureurs rallient Sestola depuis Piacenza. Il reste un peu plus de 100 km. Ça va commencer à grimper avec plusieurs ascensions au programme. Le maillot rose est toujours sur les épaules de l'Italien Filippo Ganna d'Ineos. Par ailleurs, tous les tests Covid des coureurs sont revenus négatifs. La météo et la pluie qui continuent cet après-midi sur tout le pays. Du sud-est à l'Alsace, elle sera même orageuse. Attention, de ce fait, aucun train aujourd'hui entre Lyon et Saint-Étienne dans les deux sens. En cause, un glissement de terrain à Rive-de-Gier. Les températures en dessous des moyennes de saison, 15 à Paris et Bordeaux, 16 à Lille. Les courses étaient à Chantilly, l'arrivée provisoire. As, 12, 13, 3, 2. As, 12, 13, 3, et 2. 14h et presque 2 minutes sur RTL. Et la suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Pro.
Merci Hortense.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
On n'a pas encore parlé des conditions du déconfinement, Greca Anoni, donc c'est dommage. J'espère qu'on aura sur ces jauges à 50% des témoignages. Mais si vous le voulez bien, Greg, on va jouer à vrai ou faux.
Ah,
pour
d'accord.
Savoir si vous avez bien compris,
oh là là,
ce qui va se passer à partir du 19 mai. Je vous dis, vrai ou faux, j'ai le droit de dîner à 20h30. À 20h30, le 19 mai. Vrai ou faux ?
Faux. Enfin, ça dépend. Moi, j'ai le droit de dîner chez moi à 20h30 tout seul,
par exemple. J'ai le droit de dîner à 20h30 en terrasse, dehors. Vrai ou faux ?
Le 19 mai, je ne crois pas.
Le 19 mai.
Je crois que le couvre-feu est encore à 19h, non ?
Eh ben non, il est décalé à 21h.
Ah, très bien. Voilà.
Donc, vous avez une mauvaise réponse.
Il y a d'autres questions ?
Oui. J'ai le droit d'aller à un festival de plein air assis,
mm-hmm,
le 19 mai. Vrai ou faux ?
Oui. Vrai ?
Vous dites vrai.
Je dis vrai.
C'est votre dernier mot ?
C'est mon dernier mot.
Eh bien, vous avez raison. Bravo. Et vous savez jusqu'à combien de personnes ?
Ah non, je l'ignore.
1000. Et à partir du 9 juin, ce sera 5000 personnes.
Ça fait peur ce jeu, hein. J'ai l'impression d'être un peu face à Jean-Pierre Foucault.
Je suis capable de faire peur. Et le 9 juin, le couvre-feu, il sera à quelle heure ? Il sera décalé à quelle heure ?
23h ?
Bravo.
Me souffle-t-on dans mon oreille gauche ?
23h, bien sûr. 23h. Non mais je suis comme vous, hein. Moi je suis perdu, hein. Je vous rassure, hein. Je fais le malin parce que j'ai tout sous les yeux.
Mais moi je fais le malin parce que j'ai Laurent Tessier à ma gauche.
Bah, non mais c'est très intéressant. Par exemple, les bibliothèques, ce sera un siège sur deux. Au casino, à partir du 9... je vous assure, Le déconfinement, les mesures, c'est extraordinaire. Les terrasses, donc, c'est 50%. Les casinos, c'est 35% de l'effectif. Je ne sais même pas comment on fait 35%. Comment on passe à 36% dans un casino ? Tu rentres.
Bah, j'imagine qu'on prend le taux habituel de remplissage du casino. On prend 36% de ce taux et on laisse rentrer le nombre de personnes correspondantes.
Oui, enfin, ça me paraît, vraiment, ça me paraît très, très étrange. Alors, dans un mariage, un emplacement sur 3. C'est pratique, donc j'imagine que les mariés ont le droit d'être l'un à côté de l'autre quand même. Parce que, et alors, ce qui est drôle, c'est en quinconce, entre chaque rangée. Activité sportive en plein air, c'est 10 personnes, uniquement sans contact. Alors, je sais pas, tu dois pas faire du foot sans doute,
ouais, ou des choses comme ça.
Alors, la danse sera reprise pour les mineurs, mais pas pour les majeurs, on sait pas pourquoi. Et alors, il y a un truc qui est génial, c'est que les remontées mécaniques vont rouvrir.
Ah, mais la neige ne va pas tomber.
C'est fascinant, c'est magnifique. Nous sommes avec Cédric et nous revenons sur le voile et cette candidate de La République En Marche qui pose sur une affiche de campagne des élections départementales avec un voile. Est-ce que ça vous choque ou pas, Cédric ?
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Alors, à titre personnel, ça me choque pas. Je trouve même ça plutôt bien pour ce qui est de l'ouverture. Ça prouve que voilà, on peut être voilé et réussir dans la République. Donc, à titre personnel, ça me choque absolument pas. Et je trouve que ça devrait être même plus fréquent, et y compris dans d'autres religions. Ça permettrait de garder cette ouverture qu'on a les uns envers les autres. En revanche, moi, ce qui me dérange, c'est... si vous voulez, le gouvernement qui prône cette laïcité. On prône cette laïcité et au final, on met une candidate voilée sur une affiche. C'est contradictoire en réalité. On interdit dans les écoles de venir avec une croix ou une main de Fatma autour du cou. Encore une fois, moi, ça, personnellement, ça me choque absolument pas. Et quand j'étais petit, on y avait droit. Bref. Mais on peut pas prôner ça, enfin interdire ça dans les écoles et derrière mettre une candidate voilée. Ou alors il faut que le gouvernement change sa politique. Tous les jours ou presque sur les plateaux, on nous dit laïcité, laïcité, laïcité. Tout ce qu'on va réussir à faire aujourd'hui, c'est encore donner du pain blanc au Rassemblement National. Parce que cette pauvre personne, qui est certainement une très bonne personne, eh ben, elle va en prendre plein la tête par le Rassemblement National, elle va en prendre plein la tête par certains élus de droite, et je trouve ça dommageable, quoi. Et voilà. Moi, ce qui me choque, c'est ça. C'est la politique du gouvernement. Parce que c'est absolument contradictoire avec ce qu'ils veulent nous inculquer dans leur laïcité, que je trouve par ailleurs...
Non, mais le mot laïcité, le problème, c'est que j'ai peur que le mot laïcité... qui est un mot d'ailleurs assez nouveau, je ne sais pas combien de temps il a, c'est 20 ans, 25 ans, 30 ans, je n'ai jamais entendu parler de laïcité quand j'étais à l'école, je ne peux pas vous dire autre
mais
chose,
moi non plus.
Ça n'existait pas dans les années 70.
Mais pour moi, ce mot, il ne devrait pas exister en réalité.
Bah si, parce qu'il a existé avec la séparation de l'Église et de l'État, donc c'est une définition, mais on n'en parlait pas, c'est comme les valeurs de la République, jamais on employait ces expressions-là. Tout ça, ça a 20 ans, 25 ans,
moi,
peut-être,
moi,
je ne sais pas.
Les valeurs de la République, je les respecte parce que je suis fier de mon pays, je suis fier des Français, je les respecte. Mais respecter les valeurs de la République, c'est aussi avoir le droit de porter une croix autour du cou, c'est le droit de porter une main de Fatma, c'est le droit d'avoir un voile, je comprends pas. Moi, quand j'étais
c'est-à-dire
gamin,
que c'est pas ostentatoire une croix, donc chacun peut porter sa croix de baptême de la même manière que vous pouvez avoir un insigne religieux dans chaque religion.
Oui, mais c'est
pas ostentatoire.
C'est interdit
non,
à l'école d'avoir
une toile de David, c'est interdit à l'école, l'étoile de David ?
Une étoile de David, une croix ou une main de Fatma autour du cou, dans une école, c'est interdit, parce que c'est un signe ostentatoire.
Une médaille de baptême est un signe ostentatoire.
Une médaille de baptême est un signe ostentatoire à l'école.
Bah écoutez, je vous crois. Je trouve pas ça ostentatoire,
mais je vous crois,
l'étoile de David, je trouve pas ça ostentatoire.
Et moi, je trouve ça dommage, parce qu'en réalité, c'est ça qui fait l'intéressement des gens et l'ouverture des gens. Pourquoi toi, t'as une croix ? Pourquoi moi, j'ai une main de Fatma ?
Mais on est devenu très tendu sur ces sujets-là, vous le savez bien, on est devenu très tendu.
Et bien dans ces cas-là, il faut que le LREM revoie sa politique. De laïcité entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot en plus, parce que c'est contradictoire avec ce qui nous saoule tous les jours sur les plateaux télé. Encore une fois, c'est donner du pain blanc
Vous savez, je l'ai sous les yeux l'affiche de l'élection départementale 20 et 27 juin canton de Montpellier.
Ouais, je l'ai vu aussi.
Différent mais uni pour vous. Je veux dire, ça veut dire quoi, différent? Par définition, tout le monde est différent. Il y en a qui sont grands, qui sont petits, d'autres qui sont bruns, etc. Mais à partir du moment où ils mettent différence et qu'ils insistent eux-mêmes sur une religion différente, et c'est le point central de leur affiche. Parce qu'autrement, ils ne mettraient pas différent. Tu mets deux hommes, deux femmes. Tu peux mettre pour toute affiche différent, mais avec vous. Parce qu'on est tous différents, par définition.
Mais on
considère
ça.
Donc La République En Marche que l'appartenance religieuse crée une différence fondamentale. C'est pour ça que cette affiche, d'abord, est très mauvaise.
Donc, on en revient à ce que je disais au départ. C'est-à-dire c'est complètement contradictoire avec les valeurs qu'on veut nous inculquer. Et je trouve ça vraiment, mais d'une absurdité absolue. Et puis je plains cette pauvre dame qui va s'en prendre plein la tête. Par,
ça, c'est pas faux. Je suis d'accord avec
ça,
vous.
Et ça, vraiment.
Elle ne le mérite sans doute pas.
Elle le mérite absolument pas. Au contraire, moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'elle soit sur une affiche de campagne.
Je dirais pas jusque-là, parce que forcément.
Moi, c'est prenez l'ouverture. Et moi, je trouve ça bien.
Oui. Enfin, il y a discussion sur ce sujet, sur ce qu'est le voile et comment il est porté. Bon. Mais c'est des discussions qu'on a très très souvent. Cédric, je vous remercie.
République, voilà.
Une pause.
Pas de souci. Une pause.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nico est là. Bonjour Nico. Oui.
Bonjour Pascal.
Nico pour Nicolas ?
Oui, c'est ça.
Nico, donc vous êtes aide-soignant, vous habitez Toulon. Et votre avis sur cette affiche avec cette jeune femme qui porte donc un voile et qui défend les couleurs de La République En Marche ?
Bah écoutez, tout à l'heure, en parlant avec Olivier, je me suis fait la réflexion. Ça me fait autant plaisir de voir une femme voilée sur une affiche que ça m'a fait vraiment plaisir de voir Bertrand Delanoë se présenter à la mairie de Paris en tant qu'homosexuel, enfin, en étant publiquement homosexuel. Je trouve que c'est un super signal d'ouverture.
Ça tout sera, simplement. Cette comparaison m'étonne.
Bah parce que je suis et musulman et homosexuel. Voilà pourquoi je fais le rapprochement. Parce que voilà, c'est juste un signe d'ouverture, quoi, tout simplement.
Mais on peut le voir comme ça, et vous avez sans doute raison de le voir comme ça. Est-ce que vous trouvez d'ailleurs que la religion musulmane vis-à-vis des homosexuels, ça peut pour vous être parfois plus difficile que...
Alors sincèrement, je peux parler que de mon expérience personnelle. Quand j'étais jeune, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la religion, avec les religieux catholiques.
Ah, bon, je suis pas toutes les religions d'ailleurs avec l'homosexualité sont effectivement ont un rapport très particulier, mais toutes les religions aujourd'hui ne sont peut-être pas dans le même stade d'évolution, si j'ose dire. Il y a peut-être des religions qui aujourd'hui sont peut-être plus ouvertes que d'autres.
Bah oui,
sur ces sujets.
Quand je suis venu à Toulon, quand j'étais à Toulon, j'ai fréquenté la mosquée de la Seyne-sur-Mer et j'étais publiquement, je me cache jamais de mon homosexualité, j'étais même marié à l'époque à un homme et je suis toujours en contact, ça fait des années que je suis en contact et que l'imam m'accepte, que la directrice de l'école m'accepte, que tout le monde m'accepte très bien.
Donc il n'y a aucun souci, c'est important de le lire parce que parfois les communautés sont caricaturées. Donc vous-même dites que dans votre communauté, vous êtes accepté et comme si vous étiez, j'ai envie de dire, hétérosexuel.
Ah bah, ils m'appellent tous mon frère. Hein.
Non, non, mais c'est important de le dire, vraiment, c'est important de le dire.
L'imam me fait la bise pour me dire bonjour. Hein. Voilà, ils sont complètement ouverts. Hein. Moi, en tout cas, ici. Alors c'est peut-être une exception aussi, je ne sais pas. Voilà.
Là, vous habitez Toulon.
Alors, j'habite au Maroc, et là, je suis bloqué à Toulon de façon indéterminée, parce que la frontière marocaine est complètement fermée.
Et au Maroc, vous diriez que l'homosexualité est vécue comme elle peut l'être en France, par exemple ?
Non, pas du tout, mais c'est en train de changer. On voit vraiment dans la nouvelle génération une bien meilleure acceptation. Moi, j'ai des amis qui sont gays, mais qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui ont une vingtaine d'années. Et leurs amis de lycée, ils sont au courant. Les amis de fac sont au courant. Ça pose beaucoup moins de problèmes. Et Dieu merci, ça change beaucoup.
Mais comme ça a changé en France depuis 50 ans. Hein. On rappelle souvent que je crois que c'est en 1981 que le délit d'homosexualité a été dépénalisé par la loi française. Donc c'est assez récent finalement.
Mais sans aller aussi loin, vous savez, quand il y a eu le débat sur le PACS, donc ça remonte quand même à 25-30 ans, je ne sais plus, il y a quand même eu des gens qui ont manifesté librement avec les affiches, les PD au bûcher. Hein, ça reste un souvenir assez traumatisant dans ma mémoire.
Oui, alors ça devait être quand même une minorité, j'imagine.
Alors du coup, je fais un rapprochement aussi là-dessus, parce que le fer de lance du mouvement contre le PACS, c'était quand même Christine Boutin qui avait fondé le Parti chrétien-démocrate. Et qu'on appelle un parti politique Parti chrétien-démocrate, ça pose absolument pas de souci.
Le PACS, ça date de 99, figurez-vous.
Ouais.
sous le gouvernement Jospin. Et ça avait été proposé dès 1990.
Et par rapport aux signes ostensibles, ostentatoires, Christine Boutin avait brandi une Bible à l'Assemblée. Et c'est pareil, on ne s'en souvient plus de ça.
Bah merci Nico de votre témoignage, c'était vraiment intéressant. Et c'est vrai qu'on rêve en fait d'une société, j'allais dire, où tout le monde serait comme vous, Nico. C'est-à-dire ouvert, tolérant. Et à ce moment-là, on pourrait évidemment tous vivre avec des différences, pour le coup, qu'elles soient religieuses, et les afficher, etc. Parce que chacun aurait l'ouverture d'esprit, la tolérance, la distance, etc. Hélas, on n'en est pas là. Mais peut-être que ce sera ça le progrès, que tout le monde s'aime et tout le monde soit un peu plus intelligent. C'est la chanson de John Lennon, Imagine. Merci Nico.
Merci.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
On va marquer une pause et on va ouvrir les terrasses dans une seconde.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et nous sommes donc avec Thomas, bonjour. Thomas, vous êtes restaurateur?
Oui, bonjour Pascal, tout à fait, restaurateur sur Lyon.
Et est-ce que vous avez la chance d'avoir une terrasse?
Oui, bah, j'avais déjà eu l'occasion d'échanger avec vous il y a 2 semaines où on avait parlé de ce plan de réouverture, où j'avais annoncé que j'avais effectivement une terrasse, mais petite, ce qui fait qu'on pouvait accueillir très peu de clients, et c'était à peu près 70-30 ou 80% en intérieur, 20% en extérieur, quoi.
Donc c'est combien de places pour vous en terrasse aujourd'hui?
On est aujourd'hui avec les mesures Covid ou sans mesures Covid?
Sans mesures Covid.
On est à 25-30 couverts.
Donc vous n'allez pas ouvrir pour 12 personnes?
Eh ben, au départ on devait ouvrir parce qu'on n'avait pas cette jauge de 50%. On va maintenir notre ouverture quand même parce que demain j'ai toutes les livraisons qui vont être faites. Puisqu'en plus de ça, et jeudi il y a l'Ascension, c'est férié, donc les fournisseurs ne livrent pas. Donc j'ai la canne qui arrive demain, qui fait qu'on va quand même rester ouvert.
Et vous allez ouvrir pour 12 couverts?
Bah ouais, c'est ça, on va ouvrir.
Non mais je vous assure, cette mesure m'a un peu agacé, voire mise en colère. On nous explique qu'il n'y a pas de contamination à l'extérieur. Nous sommes d'accord. On nous explique qu'avec un protocole, ça peut suffire. C'est-à-dire que tu te mets à 1 mètre les tables les unes des autres. Après, il y avait effectivement, tu ne devais pas avoir une table de plus de 6 personnes. Et pour une raison obscur, en tout cas inexplicable, on dit aux restaurateurs jauge de 50%. Écoutez, franchement, qui n'ont pas bossé depuis des mois, 7 mois, vous n'avez pas... Le dernier jour que vous avez ouvert, c'était quand?
Eh ben, c'était au mois d'octobre, c'était fin octobre, le dernier...
Moi, je trouve ça invraisemblable, mais personne, visiblement, ça n'a pas l'air d'émouvoir beaucoup de gens, donc...
Non, mais si vous voulez, moi déjà, quand ils ont annoncé cette ouverture le 19 mai, quand on en discutait, j'avais vraiment l'impression d'être un peu un cadeau empoisonné, parce que mine de rien, on ouvrait, mais quand même avec pas mal de contraintes. Et puis on avait l'impression que la France se réveillait, c'était un élan d'optimisme total, tout le monde disait la vie va reprendre. Et puis là, on nous dit ça va être jaugé à 50%, mais comme vous dites, il n'y a pas une grande réaction. Enfin, c'est bon, tant pis, quoi. On va faire avec, on va dire.
Bon, écoutez, bon courage. Il y a combien de personnes dans votre restaurant? Vous avez combien d'employés?
Moi, j'ai 13 personnes de restaurant.
Ah, vous allez avoir plus de personnes à travailler que de gens qui sont sur la terrasse.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en chômage partiel, de toute façon.
C'est fou, quoi.
En plus. Moi, concrètement, le sentiment que j'ai un petit peu de ce plan de rouverture, c'est qu'on a l'impression d'être entré en campagne présidentielle, quoi. Et qu'on ouvre par un peu démagogie aussi, hein. C'est un peu le sentiment que j'ai.
Bon, je vous parle pas, je sais pas si vous avez lu les prédictions du Conseil scientifique qui imagine une quatrième vague cet été. Sûr. Il y a 2-3 jours, c'est sorti.
Mais en plus les Seychelles, là, c'est une petite île, mais c'est le pays le plus vacciné au monde. Ils referment, ils reconfinent tout. J'espère que ça ne va pas arriver chez nous. Mais...
Oui, vous allez nous remonter le moral. En tout cas, vous allez remonter le mien. écoutez, merci. Merci beaucoup. Julien sera le dernier auditeur. Julien qui est... horloger à Besançon, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Et merci. Vous, alors, vous êtes horloger, donc vous aurez une jauge, j'imagine, également dans votre,
dans votre horlogerie. Oui, effectivement. 8 mètres carrés, alors qu'on est sur des jauges chats coup de cœur, on va dire, avec la fête de mes mères qui arrive. Est-ce que vous avez, je vais juste me permettre de vous poser une question. Est-ce que quand vous passez devant un, une bijouterie, qu'il y a déjà une personne devant, qu'il faut attendre un quart d'heure, 20 minutes dehors, vous allez le faire?
Bah non. Voilà. Mais j'hésite de passer devant des bijouteries parce que ça coûte cher souvent, donc je me laisse pas tenter. Parce qu'on a toujours envie d'offrir des cadeaux à des gens qu'on aime.
Donc vous avez parfaitement résumé, en fait, vous n'allez pas vous arrêter. Parce qu'en fait, c'est réouvrir, mais avec une jauge et encore avec des personnes qui n'ont pas forcément le droit ou le plaisir de pouvoir se faire plaisir, encore une fois. Voilà. Dans des magasins qui sont fermés depuis des mois. Parce qu'il y a des magasins, des bijouteries qui sont dans les centres commerciaux qui sont fermés depuis janvier, hein, parce que les grands centres commerciaux, ça fait déjà un moment qu'ils sont fermés. Mais comme vous dites souvent, j'ai l'impression qu'on est quand même dirigé par des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de sens de la réalité.
En tout cas, qui se protègent tellement.
Oui, c'est ça. Elle l'a très bien résumé, il est commun. Avec le jeudi qui est fermé de l'Ascension, il fallait qu'il les passe. Donc même si il va ouvrir presque à perte avec ses 12 personnes, bah, il va le faire parce qu'il a fait les commandes avant. Mais quand, quand ils ont décidé 50% sur les terrasses ou 8 mètres carrés pour les bijouteries, je ne pense pas qu'ils pensent vraiment, ils n'ont pas du tout la notion de ce qu'est la vie réelle des gens qui travaillent. C'est ça qui me...
Mais merci Julien. Peine, en fait. Julien, je vous interromps parce que la ligne n'est pas formidable, hélas, mais surtout, je vous souhaite beaucoup de courage. Ça va être le débrief dans une seconde avec l'excellent Laurent Tessier. Je ne sais ce qu'il a gardé de cette heure 30. C'est à vous.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Des mesures de durcissement de peine contre les agresseurs des forces de l'ordre ont été annoncées hier. Parmi les mesures, la fin du rappel à la loi. Qu'en pense Fabrice, policier en Savoie ?
Ça reste des annonces qui n'empêcheront pas le délinquant de passer à l'acte. Par contre, c'est des sanctions fermes qui dissuaderont ces individus de passer à l'acte. La nuance est importante.
Bertrand est gendarme à la retraite, une violence qu'il a pu observer au quotidien.
Maintenant, ils n'ont plus la console de jeu. Ils le vivent dehors. C'est l'amusement national. On peut faire en toute impunité, parce que derrière, il n'y a pas de réponse. On a du mal à identifier les auteurs, parce qu'ils sont bien sûr cagoulés.
Et Matignon a présenté hier les conditions du déconfinement et des réouvertures, avec la réouverture progressive des restaurants, 50% de la capacité des terrasses pour démarrer. Un résumé du calendrier, Pascal, un projet ?
On mangerait par terre.
Ah oui.
Et on ne pourra pas aller aux toilettes, vous êtes au courant. On n'aura pas le droit de rentrer à l'intérieur. Donc on n'aura pas le droit d'aller aux toilettes quand on va au restaurant. C'est pipi ou manger. Mais ce n'est pas les deux ensemble.
Il ne faudra pas boire beaucoup du coup.
En attendant, les boîtes de nuit attendent toujours. D'autres vont rouvrir d'ici cet été.
Savez-vous, je sais que ça fera sourire, que les clubs libertins, eux, vont pouvoir réouvrir. Et il est bien connu que dans ces clubs, on pratique tous les gestes barrières. C'est même d'ailleurs pour ça qu'on y va.
Ah, qui dit club libertin dit musique, Greg Caranoni.
Je suis libertine. Je suis une catin.
Une réaction, Pascal ?
J'ai peur, en revanche, que la conclusion de ce qu'a dit ce député, c'est que ce soit les clubs libertins qui ferment peut-être ou qui ne rouvrent pas.
Oh là là, attendez, j'ai peur, avez-vous dit, c'est-à-dire, petit coquin.
Quand je dis j'ai peur, c'est pas à titre personnel, bien évidemment.
Ah, ça me rassure.
Vous l'aurez compris.
Mais nous voilà rassurés. Mesdames, messieurs, l'Eurovision approche. La grande finale se tiendra à Rotterdam le 22 mai. La France, avec la chanson de Barbara Pravi, est en tête des favoris, les bookmakers. Ah, et on attend une victoire depuis Marie-Myriam en 1977.
Oh non, vous n'allez pas nous refaire Marie-Myriam.
Ah
non, mais attendez, arrêtez, ça c'est pas possible.
Non mais là j'ai une information.
Non mais il y a des sujets, il ne faut plus les traiter.
Oh, très bien, quelques secondes plus tard dans l'émission.
Et on peut pas avoir écouté un peu Marie-Myriam parce que ça égayerait notre actualité si lourde qui n'a plus gagné depuis 77, c'est ça Laurent ?
1977, oui. Directeur de Marie-Myriam. Mais encore, continuons cher Pascal.
Je suis partagé parce que si chanson française gagnait l'Eurovision, ça me ferait sûrement très plaisir, mais on n'entendrait plus Marie-Myriam.
Bah, attendez, qu'aviez-vous dit Pascal au début de la séquence ?
Oh non, vous n'allez pas nous refaire Marie-Myriam. Non mais il y a des sujets, il ne faut plus les traiter.
Et dans l'émission, on adore faire des petits jeux.
On va jouer à vrai ou faux.
Ah, je sens qu'on va bien s'amuser, c'est l'heure de qui veut répondre aux questions.
J'ai le droit d'aller à un festival de plein air assis le 19 mai. Vrai ou faux ?
Vrai ?
Vous dites vrai.
Je dis vrai.
C'est votre dernier mot ?
C'est mon dernier mot.
Eh ben vous avez raison. Bravo.
Bonne réponse de Greg Caradoni. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson bah, qui ne marche pas, avec la jauge de 50% à respecter en terrasse à partir du 19 mai.
Plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui s'en seuls. Allez,
la vie flamande dans une seconde.
Dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciant.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur